Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Comment s'inscrire dans une lignée quand la ligne est brisée? Que faire des affaires de ma mère, de ses autoportraits, de ses 1000 petits papiers et bouts de ficelle inutilisables? Que faire de son piano tout déglingué? L'aventure commence au fond d'un carton, avec une notule sur les hauts faits de Yitz Kahn, mon illustre grand-père inconnu qui fonda le Heint, le quotidien yiddish le plus lu, véritable miroir d'une culture hier florissante et aujourd'hui disparue. Pionnier de la presse populaire yiddish, mon grand-père, ça alors. Me voilà, lancé sur ses traces, sur la toile, sur la neige, depuis le Yiddishland lituanien du 19e siècle jusqu'à Paris. Bonjour, Anna Celia Kandal. J'ai lu la note d'intention, on pourrait dire, de votre dernier film qui s'intitule Les Yitz Kahn, qui a été diffusé récemment sur Arte. C'est une coproduction Idéal Audience Arte France, donc, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est un long métrage d'1h15. C'est pas votre premier film. Vous avez notamment réalisé un court métrage qui s'intitule Partage des larmes en 2002 et qui était, vous nous le direz, mais ce qui préfigurait déjà peut-être celui-là, en tout cas dans le thème abordé, à savoir la séparation et la difficulté du deuil, faire son deuil, voilà. Vous êtes, pour vous présenter, vous êtes diplômé de l'IDEC, vous avez été aussi élève au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et du mime Étienne Decroux. Ça a son importance, on le verra pour le film dont on va parler. Et donc parallèlement à ces documentaires, on pourrait dire d'autofiction, vous avez également réalisé une série de films pour Arte dans la collection Design, sur la mode notamment, et pour la nouvelle collection Couture également d'Arte. Et ça aussi, ça a son importance, on le verra pour le film dont on va parler aujourd'hui. Ma première question est toute simple. Quel a été le véritable point de départ de cette enquête de mémoire, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que c'était vraiment un projet mûri de longue date, ou ça s'est imposé après la mort de votre mère, quand vous avez été héritière, voilà, de ses affaires?
Non, c'est un long processus. J'ai mis certes 10 ans à faire ce film, pour des tas de raisons, mais ça a commencé avant, ça a germé avant. En fait, ça a germé quand ma mère m'a révélé le destin de sa mère, Rebecca, dont on taisait absolument tout dans la famille. Donc, voilà, elle m'a révélé son destin sans d'ailleurs le préciser, puisque personne ne sait finalement comment elle a disparu. On sait qu'elle a été vue en dernier dans le ghetto de Varsovie, mais c'est tout. Et donc, je m'étais dit, quand j'irai mieux, je ferai quelque chose pour réhabiliter le nom de Rebecca dans la famille, et puis je suis jamais allée mieux, et puis,
donc là,
c'est
vous
vrai.
Vous étiez encore jeune quand votre mère vous a fait cette
proposition? Elle me l'a dit très, jeune. Oui, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, mais elle me l'a dit vraiment très très tardivement.
D'accord.
Donc je savais qu'il y avait, bien sûr, comme tous les secrets, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait que ça tourne autour de Rebecca et voilà, mais voilà, donc c'était pas une surprise, mais disons quand elle m'a révélé, puis qu'elle m'a aussi révélé des choses que je dis pas dans le film, mais ces sentiments ambivalents qu'elle avait envers sa mère, j'ai dit je comprends tout, quoi. Je comprends les nœuds familiaux, je comprends la folie de cette famille. Folie, c'est un mot un peu fort, mais qu'il faut oser prononcer. Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais
oui,
que ça a commencé comme ça. Mais donc ça, c'était quand? Je ne sais même pas vous dire. C'était la fin des années 90, peut-être. Donc, vous voyez, ça prend du temps à mûrir. Et puis alors, il y avait un autre truc, c'était l'autocensure. très importante, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que... Bon, moi, de toute façon, réhabiliter le nom de Rebecca, de toute façon, moi, ce que je sais faire dans la vie, ce que je fais dans la vie, c'est même pas être en relation avec ma famille ni rien, c'est faire des films. C'est ça qui me maintient en vie, ou en relation avec le monde. Donc, tout de suite a germé l'idée de faire un film. Mais bon, voilà, il faut faire un film, c'est une guerre, donc il faut se sentir prêt à l'affronter. Donc, et donc, je me disais, bon, encore un film de plus sur la question juive. Donc, comme le grand public, ça en faisait un de plus, quoi. Et donc, autocensure, donc beaucoup de temps à dire, je vais le faire, ce film de plus. Voilà. Donc,
qui n'est pas un film de plus d'ailleurs, parce qu'il est très original. Hein. On va en parler, mais
non. Je vous remercie.
Il est assez unique.
Mais faut. En fait, faut trouver le temps. C'est du temps qu'il faut, enfin, de maturation pour s'autoriser à faire un film, et puis avec ce que je suis, c'est-à-dire m'autoriser l'écriture, m'autoriser. Ouais, ça prend un temps fou. Enfin, moi, ça me prend un temps fou. Ouais.
Et est-ce que... On a parlé là de votre film Partage des larmes. Oui. Est-ce que quelque part, il prépare celui-là déjà un petit peu
Oui, c'est très bien vu, bravo. parce que je dis parfois qu'effectivement, c'est le premier volet. Mais je ne dis rien des sources profondes. Je ne dis rien dans ce film. Je parle des larmes en général. J'ai touché des petites séparations, des petits deuils que j'ai fait ou pas fait d'ailleurs, mais je n'allais pas au fond. Donc et d'ailleurs ma mère n'aimait pas ce film.
Oui, votre mère l'avait vu.
Elle l'avait vu, elle l'aimait pas, peut-être parce qu'elle n'y était pas.
D'accord.
Peut-être un peu de.
Et puis peut-être
que je l'ai pas fait participer.
Justement, l'émotion était, si je comprends bien, retenue chez vous.
C'était très. Non, il y avait des moments d'émotion, mais c'était.
Enfin, que la douleur était en tout cas refoulée.
Non, mais je parlais pas. Je parlais pas de la source. De la source. J'en sais rien si l'histoire de Rebecca est la source de mes larmes à moi, mais. C'est possible, voilà. Mais ça, je ne l'ai pas dit dans le partage des larmes.
Alors, donc, votre mère décède en 2012.
2004.
Hein. 2004, voilà. Et vous vous retrouvez, alors, en tout cas, c'est le point de départ du film, j'imagine, qui est scénarisé. Mais vous vous retrouvez encombré, comme vous dites, des restes de votre mère. Alors, restes au sens de centaines d'études, d'esquisses, de tableaux, puisqu'elle était peintre. Et aussi une centaine de cartons à chaussures. Alors, qu'on vous voit dans le film, d'ailleurs, descendre à la poubelle, puis finalement dire non, je les remonte. Enfin, on voit toutes les hésitations sur cet héritage. Que faire de cet héritage? Où il y a donc ces cartons remplis de paperoles, de tickets, de factures, de notules et aussi un piano. Et tout d'un coup, dites-vous, des pans entiers qui m'étaient inconnus de sa vie, de la vie de ma mère, de la vie de ses proches et même de la vie de votre père qui, tout d'un coup, surgissent ainsi. Finalement, c'était quoi l'idée? C'était de faire un film de ces restes, enfin, essayer d'en faire quelque chose, plutôt que les mettre à la poubelle. Comment était votre tentation initiale
Oui, il y avait cet élan que merci du cadeau, quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Je peux pas jeter, quoi. C'est pas possible. Dès que vous jetez un œil dedans, c'est fini. Vous êtes foutu, quoi. Vous ne pouvez pas jeter, liquider les affaires de quelqu'un dont les proches ont été menacés de liquidation, quoi. Et plus que ça, liquider. Donc, j'emploie des mots forts parce que c'est très violent ce que vous ressentez. Plus la culpabilité, plus... voilà. L'élan initial n'était pas de faire un film sur les restes. C'était de prononcer le nom des disparus. Mmh. Ouais, en fait. Mmh. On va commencer par Rebecca. Mm-hmm. C'était elle le... Parce que là, je remonte 10 ans en arrière.
Finalement, c'est pas elle, d'ailleurs. Finalement, c'est plus votre grand-père qui est une des figures, on va dire, un des héros de ce film, en quelque sorte.
C'est un des héros, mais si vous voulez, mon prétexte, c'était prononcer le nom des disparus.
D'accord.
Et le héros du film, c'est Yatskan. Mm. Et aussi, c'est plus confortable pour tout le monde... moi et le public, de s'identifier à une figure déjà masculine, faut le dire, et quelqu'un qui a compté...
Un intellectuel engagé,
pionnier
de la presse.
Et qui a compté pour sa communauté. Il est vraiment, je me suis rendu compte, capital pour la formation de la conscience de toute une région. Mm. La conscience juive de toute une région.
D'accord.
Et au-delà, puisque les gens qui partaient pour les États-Unis, pour l'Argentine, pour la Palestine, puis Israël, emportaient leur collection du Heinz et du Paris Heinz avec eux et maintenaient leurs abonnements. Donc.
C'est
important au-delà des océans.
De toute la Yiddishkeit, de tout le monde yiddish de cette époque. Quoi.
Mais moi, je ne savais pas tout ça, je l'ai appris. Donc, si vous voulez, le film l'apprend au fur et à mesure. Donc, le spectateur l'apprend
exactement,
avec moi.
C'est ça qui est très intéressant. C'est aussi un film en train de se faire sous nos yeux. On est là par-dessus votre épaule, en train de chercher sur Google ou sur Academ. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui se fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la troisième génération a tendance à, dans l'enquête de mémoire, à montrer aussi le making-of. Mais vous l'avez vraiment radicalisé, cette façon de faire. Et ça rend les choses très plaisantes et puis très intéressantes. Pour vous, que représente Google, en quelque sorte
Donc, vous me posiez la question de la Genèse, ça a commencé. Bon, alors, il y a plusieurs phases. Il y a un, Rebecca, quand j'apprends son destin. Et puis, pourquoi elle a été sacrifiée. Il y a eu la phase ADSL, c'est-à-dire l'ADSL arrive chez moi.
D'accord.
Qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout le monde. Oui. Je tape le nom de... Alors, je ne tape pas mon nom parce que mon nom a une histoire qui est révélée dans le film. Mon nom, je n'ai aucun affect sur... Quoi que si, je le rejette un peu. Je ne tape pas mon nom, je tombe celui... Je tombe, bravo. Mm-hmm. Je tape celui de ma mère. Mm-hmm. Comme mon père ne m'a pas élevée, je tape le nom de ma mère. Et là... Donc, je passe des nuits sur Internet à fouiller. Voilà. À fouiller et à trouver. Donc, je tombe sur un site, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelle hind.org, où il y a donc à l'époque, quand je tombe dessus, c'était avant la mort de ma mère. Donc, ça devait être 2003. Donc, il y a des traducteurs bénévoles du yiddish qui communiquent les chapitres d'un bouquin sur le Heint au fur et à mesure des semaines. Alors moi, j'étais complètement accro, quoi. C'est chaque jour, je regardais où on en est. Oui. Parce que j'étais pas en lien avec eux. C'était en ligne, quoi. Et là, à chaque chapitre, il s'agit de mon grand-père. Et là, je commence à comprendre la psychologie familiale. C'est quelqu'un qui était amoureux de la polémique. Donc, j'ai dit, tiens, c'était donc.
Vous vous reconnaissez
quelque
part.
Oui, c'est passé. Alors comment? Je sais pas. Est-ce que c'est génétique? Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est culturel et non pas familial. Mm. Voilà, c'est la polémique. C'est vraiment un truc. Je vois ça comme ça maintenant. Et donc, ça m'amuse. Voilà, alors, ça m'amuse, ça.
Ce que vous dites là, c'est intéressant. C'est-à-dire que par rapport à cette découverte, En fait, Google, on a l'impression que, enfin, en tout cas, Internet, finalement, la communauté, elle est là. C'est-à-dire que la famille, bon, elle est dispersée, il n'en reste pas beaucoup, même si vous faites venir des cousins éloignés. Mais qu'il y a une communauté virtuelle, mais plus que virtuelle, finalement. Ouais. Et c'est finalement le monde juif, en tout cas, ce qu'il en reste, il se reconstitue là, quoi, quelque part. Vous le dites à un moment donné dans le film,
oui.
Vous dites c'est mes compagnons, mais je ne sais plus comment ils
sont
employés.
Oui, oui. Que nous, en fait, alors c'est plus tard dans le film, et c'est quand je j'interroge Jewish Jen. C'est un autre extraordinaire site. Mais extraordinaire. Mais de toute façon,
que c'est beaucoup de nos auditeurs connaissent, je suis sûre d'ailleurs,
C'est parce que là j'ai quand même trouvé des choses, hein. Et surtout j'ai trouvé des cousins. Donc c'était pas du tout prévu au scénario et je n'en cherchais pas. Sauf que
de mémoire, mais maintenant on a ça, quoi.
De toute façon, ils recoupent les informations qui sont dans les livres de mémoire. Voilà. Donc j'ai aussi trouvé, je sais même plus comment, parce que moi je fouille tellement. Ça s'appelle la serendipity, c'est-à-dire qu'on trouve des choses qu'on ne cherche pas. Donc j'ai trouvé des cousins que je ne cherchais pas. J'ai trouvé l'inscription de la mort de Rana, dont j'ai découvert que je porte le nom, et de Sonia, sa fille, dans une liste justement de livres de la mémoire qui est... Alors, où est-ce que je l'ai trouvé? Je ne sais plus comment. Enfin, j'ai trouvé. Et
Vous êtes devenue historienne un peu quand même, on va dire sur le tas.
Alors, je ne suis pas historienne.
Archiviste, enfin, en tout cas.
Je fais des films. J'ai un goût, c'est vrai, pour la recherche, l'archive. Et je ne prends rien pour argent comptant, c'est-à-dire. Une parole ou un écrit ne me suffit pas. Il faut que je sache la source et que je puisse analyser qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Mais ça, c'est mon tempérament, c'est peut-être un peu mes études, la sémiologie, Barthes, est-ce que je sais pas comment je me suis formée ce goût, mais enfin je l'ai, c'est vrai.
Vous faites des liens entre les choses, hein. Je pense juste à Schmatté, par exemple.
Ça c'est mon voyage en linguistique et en sémiologie, c'est le croisement. Donc ça date de mes études. Mais j'ai un vrai goût pour ça. C'est vrai que si j'ai une autre vie, peut-être je ferai de la linguistique ou
Parce qu'à travers le Schmatté, tout se tient. Votre mère, qui peignait des soies de chez Lanvin, vous qui avez beaucoup travaillé sur le design, le Schmatté, donc ce terme yiddish par excellence, qui veut dire un vieux chiffon, que vous ralliez aussi à la question du deuil, puisque les personnes en deuil lacèrent le côté gauche. D'ailleurs, vous le faites, hein, parce que vous mettez un bout
un bout de chiffon
à gauche, côté. Alors, je voudrais dire quelque chose, ce qui est très important sur votre film, c'est que. Alors, il y a deux choses. D'abord, vous vous mettez en scène, alors comme si vous bricoliez votre propre rituel commémoratif. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la troisième génération, c'est-à-dire comme si les rituels, on va dire, collectifs étaient insuffisants. Enfin, en tout cas, vous avez besoin de faire. Comment dire, c'est ça, votre propre oraison funèbre, en allant jusqu'à vous pousser l'identification, jusqu'à vous déguiser en votre grand-père et à jouer quand même des scènes de sa vie. C'est pour ça que je vous disais, vous étiez mime, enfin, ça c'est quand même lié. Ça, c'est très original aussi. Et l'autre chose, c'est, dont il faut qu'on parle, c'est votre rapport aux passants. C'est-à-dire que la Shoah, c'est pas pour vous... c'est vous refusez la place assignée à la Shoah, on va dire, dans les musées. Donc vous allez, vous vous mettez en scène en train de, par exemple, à un moment donné, vous recouvrez un arbre à l'endroit où votre grand-mère est morte de son portrait, hein, un grand portrait comme ça, et vous regardez les réactions des gens, ou même à Varsovie. Ça, c'était important pour vous de provoquer un peu, enfin, en tout cas, dans l'espace public.
Oui, alors en fait, Donc, je reviens en arrière, vous me posiez la question de la Genèse, dont j'ai répondu qu'il y avait plusieurs phases, et une des phases, c'est « il n'y a rien ». Il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour figurer le rien? Parce que c'est intéressant qu'il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Soi-disant, parce qu'en fait, on en découvre. Il n'y a pas de trace. Donc, qu'est-ce que je fais pour signifier ça, ce manque de trace, ce manque de généalogie? Voilà, donc la réponse n'est pas venue tout de suite, mais voilà, donc j'ai trouvé du bricolage, comme vous dites. Effectivement, ça me caractérise, le bricolage. Donc, bricoler, c'est quoi? C'est faire avec rien ou pas grand-chose. C'est ça, bricoler. On n'a pas les matériaux, soit on n'a pas l'argent, soit on n'a pas le temps, on bricole. Voilà, donc ça, bon, ma mère était comme ça, je crois que je tiens ça d'elle. Tout était matière pour elle, donc moi aussi, tout est matière. Ça, je l'ai vraiment... c'est d'elle que je le tiens, tout. C'est-à-dire une pomme de terre qui germe, un bout d'enveloppe, un machin, tout est matière. Bon, elle était peintre, donc elle est puis passée par toutes les phases de l'histoire de la peinture, donc le surréalisme, le dadaïsme, les collages, Picasso, enfin voilà, j'étais nourrie à ça au biberon, donc voilà pourquoi je bricole.
Oui.
Hein? Donc ça, c'est pour bricoler, vous m'avez aussi demandé. Vous dites le collectif est insuffisant. Alors le collectif, c'est pas qu'il est insuffisant, c'est que j'étais acculturée. C'est-à-dire que donc je ne connais même pas les rituels. Et tout d'un coup, je découvre que c'était lors de l'enterrement de mon père. Je découvre. On lui a donné un enterrement juif et je découvre à l'autre bout du cimetière des gens avec un truc sur la chemise. Donc c'était une pendeloque, enfin un chiffon noir agrafé. Donc c'était pas une chemise déchirée. J'ai donc appris par la suite que c'était ça à l'origine. Bon, c'était un bout de chiffon. Voilà, donc c'est pas que le collectif est insuffisant, c'est que je ne le connais pas et que je le découvre. Voilà.
Je rebondissais à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire je voulais prononcer le nom, en tout cas. Il y a des murs de des noms, mais vous voyez ce que quand je disais rituel collectif, c'était au sens les commémorations ou les monuments, mais vous aviez besoin de vous approprier en quelque sorte.
D'apporter
votre pierre, quoi.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que pour moi, c'était très important que les noms de. Attendez, c'est les registres publics de Varsovie, pas tous, mais beaucoup ont disparu, ont été brûlés, certainement. On n'en est pas à la certitude, mais. Enfin, moi, je pense. Comment on appelle ça la pièce d'état civil qui relate la date de naissance de ma mère n'existe plus. Il a été brûlé. Rebecca n'est pas née, elle n'est pas morte. Il n'y a plus de registre. Elle n'est sur aucune liste nulle part. Parce qu'on a, on ne sait pas comment elle a disparu. On ne sait pas. Elle a été vue pour la dernière fois en 1942 dans le ghetto de Varsovie, c'est tout ce qu'on sait.
C'est pour ça que vous êtes allé à Varsovie, afficher son portrait dans la ville.
Enfin, ça, c'est un peu plus... Je crois qu'on n'aura pas le temps de développer ça. Je vais écrire un livre. Il y a une demande, très forte demande pour un livre, parce qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas dites dans le film. Bon, voilà. Donc, l'histoire de s'identifier au grand-père, c'est encore autre chose. C'est... Comme je vous ai dit, c'est quand même agréable de s'identifier à une figure forte. D'hommes, parce qu'en fait dans ma famille il y a énormément de femmes et pas beaucoup d'hommes, donc c'est gratifiant pour tout le monde, pour moi, pour la famille, pour tout le monde, pour le spectateur aussi.
Et il n'est pas mort en plus, il n'a pas été assassiné.
Il est mort de sa belle mort de cardiaque, mais pas emporté par la catastrophe. Voilà. Interpeller les passants, ça faisait partie de régler la question du comment on fait pour montrer qu'est-ce que c'est le rien. Le grand-père aussi, d'ailleurs. Je n'ai rien, donc je... Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai moi, j'ai mon corps, je peux faire quelque chose avec mon corps. Voilà. Interpeller les passants avec l'affichage sur des lieux qui n'ont aucune mémoire de ce qui s'est passé. Les lieux n'ont aucune mémoire, les gens n'ont aucune mémoire. Voilà.
Je pense que c'est important ce que vous dites. Il y a quelque chose dans votre démarche qui est transgressif, mais qui est en même temps nécessaire.
Oui.
C'est-à-dire parce que finalement, comme s'il y avait un tabou qui s'était construit autour de la Shoah, on veut bien en parler, mais dans certaines circonstances, à l'occasion des commémorations, ou voilà, dans des musées. Mais vous, vous le faites dans la rue comme ça, vous allez même jusqu'à à Paris. Je crois que le journal de votre grand-père avait été arianisé, enfin voilà. Le local, et donc vous collez sur la porte magasin juif,
entreprise juive,
etc. Ouais. Les gens réagissent forcément autour.
Ouais, ouais. Oui, j'avais pas conscience de faire quelque chose de si transgressif avec les affichages. C'est vrai que ça m'a fait bizarre de coller entreprise juive sur une porte. Donc, et je me suis dit, oulala, mais ça peut choquer certains. Donc j'ai été voir tous les commerçants de la rue Mellet, parce que c'était rue Mellet à Paris. J'ai été les voir avant pour leur expliquer ce que je faisais. Et c'est vrai que c'était pour susciter le dialogue, pas la... C'était pas une démarche provocatrice.
Oui, non,
enfin, disons que je n'en avais pas conscience.
Non.
Aujourd'hui, je me dis oui, peut-être que c'était provocateur. Mais en tous les cas, oui, c'est vrai, je voulais susciter une parole, dire voilà, mon grand-père, il était là.
Non, quand je disais provocatrice, c'était vous avez une façon, vous voulez réveiller les consciences, voilà,
oui.
Interpeller. On va s'arrêter là, malheureusement, mais je pense qu'on a une idée de la richesse de ce film qui n'est donc pas simplement un documentaire sur une histoire familiale. Il n'y a pas d'archives, d'ailleurs, au sens archives cinématographiques habituelles. Mmh. Hein, c'est des archives personnelles, collectives. Mais c'est aussi... Il y a des performances. Hein, enfin, on pourrait dire que ça s'apparente à des performances, même si elles sont moins radicales que celles de votre cousine. voilà,
Doris. Oui.
Doris, des performances, même des scènes de reconstitution où vous vous déguisez. Voilà, et puis aussi tout simplement des très beaux paysages aussi qui sont filmés, enfin paysages nus de Pologne. Je rappelle donc le titre de votre film, Anne-Célia Kandal, Les Yatskan, une enquête de mémoire, qu'on espère voir bientôt sur les écrans,
ou autre. J'y travaille. Je voudrais juste préciser que je m'appelle Anna-Célia, alors Anna pour Hanna, qui a disparu, massacrée. Célia pour une autre, hein, massacrée. Kendall, le nom que mon père a pris pendant la guerre. Et Yatskan, pour le nom de ma mère.
Très bien, merci Anna, Célia, Kendall, Yatskan. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.